nous avons passé ce temps de louange devant le Seigneur. Je vais vous donner, écoutons bien ce que le Seigneur m'a donné comme parole pour son peuple. Des paroles qui sont vraiment touchantes. Le Seigneur m'a donné ces paroles prophétiques pour nous, pour tous ces partenaires que vous êtes, la plupart d'entre vous, de l'œuvre de compassion. Le Seigneur nous dit, « Mon peuple, mes bien-aimés enfants, dit le Seigneur, durant toutes les années où vous vous êtes rassemblés en ma présence, par le moyen des conventions compassion réalisées aujourd'hui, que j'ai véritablement marché devant vous, dit le Seigneur. Combien de fois ne vous ai-je pas manifesté mon amour, ma compassion et ma puissance? J'ai été pour vous votre divin berger, votre Emmanuel. En ma présence, vous n'avez manqué de rien, dit le Seigneur. Jusqu'à ce jour, je vous ai conduit. Rappelons-nous de toutes les années où le Seigneur nous a conduits comme un bon berger, conduit son troupeau. C'est extraordinaire. Et ce qu'il m'a dit durant ces 30 ans, voilà tout ce qu'il avait pour nous. Je vous ai soutenu. Je vous ai conduit sur des chemins tracés pour vous par ma propre main. Je vous ai exhorté à m'écouter et à m'obéir. Je vous ai pris dans mes bras de paix et vous ai porté dans mon sein. Je vous ai protégé de la main d'un plus fort que vous. Je vous ai nourri de ma manne céleste, mon immuable parole. Je vous ai communiqué ma paix.
Amen.
Amen.
J'ai pansé vos blessures.
Amen.
Quand vous étiez blessé.
Oui. Amen.
Je vous ai fortifié, dit le Seigneur, lorsque vous étiez faible et découragé. Je vous ai guéri quand vous étiez souffrant et malade. Je suis venu au secours des plus faibles parmi vous, en me penchant plus particulièrement sur chacun d'entre eux. Je vous ai encouragé lorsque les vents soufflaient fort et menaçaient de vous faire perdre courage. Combien de fois, dit le Seigneur, ne vous ai-je pas fait ressentir ma divine présence comme ce matin? Et ne vous ai-je pas fait prendre conscience que j'étais tous les jours avec vous? Combien de fois ne vous ai-je pas dit que vous aviez un grand prix à mes yeux? Combien de fois ne vous ai-je pas rappelé que mon amour pour vous était infini? Ma fidélité à votre égard s'est montrée sans limite. Sachez, chacun de vous, de tous ceux qui m'appartiennent, que le nom de tous ceux qui m'appartiennent est gravé sur les paumes de mes mains, dit le Seigneur. Vous rendez compte? Rien que ça. Sachez que mes yeux, dit le Seigneur, veillent constamment sur chacun de vous pour m'assurer que toute chose concourt vraiment au bien de chacun de vous. Ça, c'est notre grand Dieu, ça. Ça, c'est notre grand Dieu, ça. Alors, pensons à cette main puissante du Seigneur qui nous a bénis tant de fois. Nous lui devons aujourd'hui reconnaissance pour ces 30 ans passés.
Amen.
Certainement. Et qui ne s'est jamais lassé de nous bénir. Et ce matin, il nous bénit encore.
Amen.
Repassons tous ces bienfaits devant nos yeux et nous verrons combien le nombre en est grand. Exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour son amour merveilleux envers chacun de nous. Alléluia, alléluia. Et puis, j'ai à cœur, avant de parler d'autre chose, c'est vraiment le moment du Seigneur ce matin. Le moment du Seigneur, c'est lui qui nous a conviés ici.
Amen.
Pour ce jubilé des 30 ans de compassion. Alors, je pense que nous pourrions quand même nous lever. Pour faire cette prière, vous ferez cette prière avec moi, devant le Seigneur. Pour répondre à ce qu'il vient de nous dire aussi.
Amen.
Sa fidélité, son immuable bonté. Alors, Seigneur, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, nous venons tous d'un même cœur te remercier pour ta sagesse suprême avec laquelle tu nous as conduits et avec laquelle tu as aussi conduit chacune de nos vies. Alors vous allez répéter après moi cette prière-là. Seigneur, merci pour ta très haute protection sur chacune de nos vies. Merci pour ton ange qui a véritablement campé autour de chacun de nous et nous a préservés de tout mal. Merci Seigneur pour la foi victorieuse.
Merci Seigneur pour la
tu as mis à notre disposition. Merci de ne jamais avoir cessé de nous parler de diverses manières.
Merci de n'avoir jamais cessé de nous parler de diverses manières.
Seigneur, tu ne t'es jamais dérobé lorsque nous t'avons cherché.
Seigneur, tu ne t'es jamais dérobé lorsque nous t'avons cherché.
Tu ne nous as jamais refusé ton pardon, Seigneur.
Tu ne nous as jamais refusé ton pardon, Seigneur.
Lorsque nous t'invoquions avec sincérité.
Lorsque nous t'invoquions avec sincérité.
Tu as toujours été là pour nous porter au-delà de nos obstacles.
Tu as toujours été là pour nous porter au-delà de nos obstacles.
Tu t'es tenu à nos côtés dans les épreuves les plus difficiles. Et tu as donné un sens à chacune d'elles. Même lorsque nous ne comprenions pas. Tu as fait pour nous et parmi nous de grandes choses. Nous avons vu ta main puissante agir.
Nous avons vu ta main puissante agir.
Nous avons entendu ta voix nous parler.
Nous avons entendu ta voix nous parler.
Avec amour et aussi avec fermeté et autorité.
Avec amour et fermeté et autorité.
Nous avons été touchés par ta main secourable.
Nous avons été touchés par ta main secourable.
Toujours disponible pour nous aider.
Toujours disponible pour nous aider.
Nous relever.
Nous relever.
Nous guérir.
Nous guérir.
Seigneur, combien ta bonté est grande pour tous ceux qui te craignent.
Combien ta bonté est grande pour tous ceux qui te craignent.
Et combien ta fidélité est sans limite pour ceux qui mettent leur confiance en toi.
Et combien ta fidélité est sans limite pour ceux qui mettent leur confiance en toi.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, tu es digne, Seigneur, digne, mon Seigneur, tu es digne, digne d'être acclamé par tes enfants rachetés. Combien nous avons du prix à tes yeux, Seigneur, vous nous aimez de telle façon, de telle façon, Seigneur. Ça nous touche beaucoup, Seigneur, ça nous touche, Seigneur, vous nous rendez votre amour, votre reconnaissance. Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur. De louange. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Et maintenant, je ne vais pas manquer de parler d'une grande intervention du Seigneur à notre dernière convention de Montélimar, où le Seigneur nous a étonnés par sa présence une fois de plus, et où le Seigneur est venu remarquablement à l'aide d'une dame dans son combat terrible contre la mort. C'était quand même extraordinaire ce qui s'est passé là. Et vous allez être encouragés par cette dame, par ce qui lui est arrivé à notre convention là-bas. Nous ne la connaissions pas, elle ne nous connaissait pas. Elle est venue amenée par des amis dans un état de mort prochaine. Elle n'avait plus que quelques semaines à vivre. Condamnée par la médecine, le cancer, vous devinez bien. Je rentrerai dans les détails après. En tout cas, un jour, le Seigneur m'a dit, le psaume qui illustre bien, qui s'adapte bien à ce témoignage-là, c'est le psaume 107, parce qu'il y a quatre étapes dedans, par laquelle cette dame a franchi, et qui sont relatées dans le psaume 107. Alors je prends, dans le psaume 107, il est écrit plusieurs fois, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin. » Alors je vais vous expliquer comment le Seigneur a conduit cette dame sur le droit chemin. C'est merveilleux. Donc cette dame se trouvait face à la mort. Ses amis l'avaient amenée un peu comme le paralytique avait été amené par ses amis, et qu'il l'avait descendu par le toit pour atteindre Jésus. Eh bien, ces amis-là avaient amené cette dame un peu dans cet esprit-là. Et puis, cette dame s'attendait vraiment désespérément au Seigneur. Son combat avait commencé en 1998, il y a 10 ans. Et sa situation empirait d'année en année. Elle avait une tumeur au cerveau en 1998. Et suite à cette tumeur, elle a eu le côté gauche paralysé. On a opéré de cette tumeur, et c'est allé un peu mieux. Mais 3 ans plus tard, récidive de la tumeur opérée, une autre tumeur arrive. Donc elle avait 2 tumeurs cette fois. L'ancienne qui avait repris et encore une nouvelle inopérable parce que elle dit que si on avait dû l'opérer, elle aurait eu des séquelles irréversibles. Les 2 hémisphères du cerveau n'auraient plus été connectés. Donc c'était irréversible et on ne pouvait pas l'opérer du tout. Et donc cette dame, elle a mené son combat contre cette maladie terrible dont elle ne pouvait pas se débarrasser et qui l'amenait inéluctablement vers la mort. Et donc ensuite, je prendrai le passage suivant, la 2e étape, où il est dit, dans le psaume 107, « Et il les délivra de leurs angoisses encore, et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. » Si bien que cette dame, elle a, à un moment donné, elle a dit, « Bon, moi, il n'y a plus que le Seigneur qui peut m'aider. » C'est une dame de Montpellier. Et elle s'est appuyée sur le verset de Philippiens 4, 6 qui dit « Et cette paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. » Elle dit que cette pensée-là l'a renouvelée constamment, constamment, constamment. La portait, cette pensée-là. Regardez ça, si c'est beau. Et si bien que même pendant les traitements lourds de la chimiothérapie, son corps physique se dégradait. Mais spirituellement, sa marche avec le Seigneur se renforçait. Plus son corps se dégradait, plus sa marche avec le Seigneur se renforçait. C'est parce que les pensées du Seigneur ont pris le dessus.
Amen.
Sur même sa condition physique, si c'est encourageant, ça. C'est extraordinaire. Donc, le Seigneur a fait sortir cette dame des ténèbres et de l'ombre de la mort pour l'amener à la lumière, dans sa paix. C'est ce qu'elle a vécu, cette dame. C'est très très beau. Et alors, c'est dans cette condition-là que cette dame est arrivée à notre convention de Montélimar. Elle était, vous savez, on voyait, elle avait perdu ses cheveux, chimiothérapie, c'était visible, elle avait un teint jaune, gris de la mort. Déjà, la mort faisait son effet sur elle, ça se voyait. Et puis, l'impossible aux yeux des hommes s'est passé. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Disant que il y a dans l'auditoire quelqu'un qui a une tumeur au cerveau. Je ne le savais pas du tout. Je n'ai jamais rencontré cette dame. Avec de violents maux de tête, que les médecins ne pouvaient rien faire, mais que moi, ton Dieu, je le sais, et te dis aujourd'hui, prends ta guérison par la foi. Et cette dame, qui était tellement dans un cri de désespoir devant le Seigneur, elle s'est accrochée. Et c'est cette 3e parole du psaume 107 qui s'accomplit. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Voilà d'où elle venait. Elle avait été tirée par le Seigneur de la fosse. Et cette dame, après, est venue et elle a dit, c'est moi. Moi, cette dame-là, cette personne-là. Et je peux vous dire la suite ensuite. C'est que exactement deux mois après cette convention, elle est allée voir les médecins. À la surprise du médecin, mes tumeurs avaient étonnamment diminué, a dit cette dame. Et là, j'ai compris que le Seigneur avait commencé un processus de guérison. 6 mois après la convention, elle a eu le résultat de d'un nouvel examen. Plus de tumeurs. Terminé. Médicalement confirmé. Et elle vit toujours, elle va témoigner partout, cette dame, maintenant, partout. Et après, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a eu une suite avec cette dame. Elle avait une amie, cette dame. Vous allez voir comme le Seigneur utilise chaque chose dans notre vie, tout ce qui se passe, les moindres choses. Et ça, c'est pas une moindre chose, ça, c'est une grande chose quand même. Pour nous, les humains, c'est une grande chose. Pour le Seigneur, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est grand chose. Quand ça sauve une vie. Donc, cette dame avait une amie qui avait un mari inconverti. Et elle le connaissait bien, cet homme-là. Et sa femme qui était chrétienne, l'amie d'Yvette, qui avait le cancer, elle s'appelle Yvette. L'amie, elle était chrétienne et son mari inconverti, donc. Et il n'y avait rien eu à faire. Cet homme, tout le monde lui avait parlé du Seigneur, il avait assisté à des réunions, mais il n'avait pas pu donner son cœur au Seigneur. Son cœur était un peu dur. Et voilà que cet homme-là téléphone à Yvette. Yvette, je me suis convertie au Seigneur et je t'invite à mon baptême. Je veux que tu sois là. Alors, à la réunion où ce monsieur allait se faire baptiser avec d'autres dans l'église, Yvette était là, au fond de la salle. Et puis quand il a commencé, le monsieur a donné son témoignage en vue du baptême, comment il s'est donné au Seigneur. Il a dit, avant de commencer, je voudrais que la dame là-bas, Yvette, elle vienne à mes côtés. Parce que c'est grâce à elle que je me suis donné au Seigneur. Et puis, devant tous, il a dit, quand j'ai vu ce que ton Dieu puissant a pu faire, alors j'ai dit, là je craque, là je donne ma vie au Seigneur. Et donc c'était une vie sauvée par la suite. Et un couple restauré aussi, parce que sa femme priait de longues années pour son mari à convertir. Si c'est pas encourageant, le Seigneur se sert de tout, de tout, de tout. Ne désespérons jamais. Il est le Dieu de l'infiniment grand, il est le Dieu de l'infiniment petit, et rien n'est quantité négligeable à ses yeux. Ne négligeons rien, 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 rien. Il est le Dieu du détail. Alors soyons fidèles dans les petites choses. Et donc, ça c'est un combat contre la mort. Et je raconterai aussi un deuxième combat contre la mort. C'est quand même on en a eu trois gros cas comme ça, de combat contre la mort. Je raconterai encore celui d'Afrique cette fois, où nous nous trouvions à un séminaire pour des pasteurs au Burkina Faso. Cela, ça fait peut-être 9 ans, 8-9 ans que ça s'est passé. Et à ce séminaire, il y avait à peu près 500 pasteurs peut-être, eh bien, le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance disant qu'un des pasteurs présents a laissé sa femme très malade à la maison. Mais le pasteur était quand même venu à la réunion. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette femme était mourante, agonisante sur son lit de mort, renvoyée par l'hôpital de Ouagadougou depuis 10 jours pour terminer ses jours à la maison. Et cet homme, serviteur de Dieu, a eu le courage de laisser sa femme dans cet état-là, de faire un acte de foi. Et le Seigneur a aussi honoré la foi de ce serviteur-là. Donc il était là. Et puis j'ai dit au séminaire, sa femme était mourante à la maison à des kilomètres, j'ai dit, le Seigneur touche cette femme, cette épouse, le serviteur. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, dans sa maison, à des kilomètres de là? Et là, au moment où j'ai dit ça, ça s'est prouvé ensuite, exactement au moment où j'ai dit ça, la puissance de Dieu est venue dans sa maison. Elle a vu comme une grande lumière qui venait du ciel, un grand projecteur lumineux. Et le Seigneur a dit à cette femme, « J'ai une de mes servantes qui est en train de prier pour toi, je vais te guérir. » Et là, la puissance de Dieu a traversé son organisme. Elle était, je vous dis, à l'agonie. Elle avait vu les anges de la mort venir la chercher. Elle en était là, hein, au bord de la tombe, là. Très maigre et toute... à l'article de la mort. Et là, la puissance de Dieu a traversé son organisme. Comme un courant fort, mais qui ne fait pas de mal, bien sûr. Et puis elle, qui était presque aveugle, qui ne pouvait plus marcher, bien sûr, elle était en train de mourir, qui s'est levée de son lit, qui a couru dehors, c'est une femme de serviteur de Dieu, là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, 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 Seigneur. À toi la gloire, puissant Jésus. Puissant Jésus. Alléluia. Presque ressuscité des morts. Presque. Elle n'était pas encore partie, mais presque. 3 jours après, elle vient à ma réunion de dames. Il y avait des réunions de dames que j'avais faites là-bas, un peu partout. Et là, à cette réunion de femmes, moi, je ne savais rien de ce qui s'était passé. Je ne connaissais pas l'histoire de ce qui s'est passé, que j'avais dit, et que le Seigneur avait agi, je savais rien du tout. Mais cette dame est venue à ma réunion. Elle venait de sortir, elle pouvait marcher, tout. Elle était encore mince, parce qu'on ne récupère pas du jour au lendemain ces choses-là quand même. Mais elle était là. Mais la gloire de Dieu était sur cette femme. Elle était au premier rang par là. Et j'ai dit, j'ai vu la gloire de Dieu sur elle et j'ai dit, madame, vous êtes en train de vivre quelque chose de spécial, venez partager avec nous. Vous ne savez pas qui c'était. Elle vient Elle dit, madame, ma soeur, c'est moi que vous avez cité il y a 3 jours, qui était sur mon lit de mort. Et elle avait fait un dessin, comment les anges de la mort étaient venus, là, elle se baignait dans du sang, enfin c'était macabre, c'était la mort hein, qui était venue la chercher. Et puis elle a raconté l'histoire que je viens de vous dire, le puissant rayon lumineux qui est descendu du ciel. Et qui l'a traversée et qui l'a rétablie. Maintenant, elle fait aussi des réunions dans sa maison et le Seigneur se sert d'elle pour aider d'autres malades et d'autres personnes. Quand la puissance de Dieu nous touche, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour qu'ensuite, il puisse nous utiliser pour les autres. Comme pour le témoignage. Pareil. Maintenant, un dernier exemple frappant aussi, qui est magnifique. Et cette fois, c'était sur un autre continent. J'ai parlé de la France, j'ai parlé de l'Afrique. Maintenant, je vais parler du Canada. Parce que le Seigneur est le Seigneur du monde entier. Amen. Et que toutes les nations et tous les hommes ont la même valeur devant lui. Il a payé le même prix pour chacun de nous. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de l'appartenir. C'est merveilleux de le servir. Alors voilà, l'histoire du Canada. Près de Ottawa, à Gatineau exactement, nous étions dans une église. Et un soir, il y a un homme spécial qui entre à la réunion. C'était un ex-bandit qui avait fait je ne sais plus combien d'années de prison, 16, 18, pour des méfaits qu'il avait fait, et qui avait été libéré pour bonne conduite, parce qu'il s'était converti en prison. Et cet homme-là, il avait fait une expérience pour vous dire comment il était sensible à la voix de Dieu. Il avait fait une expérience toute spéciale. Le Seigneur lui a appris à entendre sa voix. Il était sorti de prison et il était avec son ami. Il est allé dans sa maison, à la maison, et il avait mal garé sa voiture dehors. Alors, il a dit à son ami, notre ex-bandit là, il a dit, je vais sortir pour garer ma voiture correctement. Et à ce moment-là, au moment où il prend la poignée de la porte, une voix lui dit, c'était celle du Seigneur, « Ne sors pas, non, ne sors pas !» Et lui s'est dit, « C'est quoi ça ?» C'était un peu au début de sa marche avec le Seigneur, « C'est qui ? Qu'est-ce qui me parle là ?» Mais il a entendu une voix, hein. « Ne sors pas !» Dans son cœur, c'est probablement, mais très fort. Bon, il se dit, « Bon, ben quand même, bon, au bout d'un moment, il se dit, « Mais il faut quand même que j'aille garer ma voiture correctement, elle est mal garée dehors. » Il reprend la poignée de la porte, la même voix qui lui dit, « Je t'ai dit de ne pas sortir !» Avec autorité. Alors il dit, bon, ben d'accord. Et puis il dit à son ami, écoute, c'est la deuxième fois que cette voix me parle, me dit de ne pas sortir. Alors son ami lui dit, ben, donne-moi les clés de la voiture, moi je vais aller la garer. Il s'en va dehors et il monte dans la voiture. Au moment où il monte dans la voiture, les policiers lui tirent dessus à son ami. Parce que c'était, ils ne savaient pas que le bandit avait été libéré officiellement et il était toujours recherché un peu. Et donc ils ont tiré sur son ami. Rassurez-vous, l'ami s'en est tiré les larmes. Ouais. Mais c'était quand même, c'est magnifique. C'était pour dire que cet homme connaissait la voix de Dieu. Il avait appris à connaître la voix de Dieu. Et nous, on était donc dans cette église là-bas. Dans cette église. Et cet homme-là était dans sa maison. Il n'allait pas dans cette église où nous étions. Il ne savait même pas qu'on était là. Mais... Il entend dans son salon, il entend la même voix du Seigneur, va à l'église du pasteur Intel, pasteur Charles Boucher en l'occurrence, va parce qu'il connaissait le pasteur Charles Boucher. Alors le Seigneur lui dit, va dans là-bas, je veux te rencontrer là-bas. Et cet homme avait donc était très malade, il avait le cancer des intestins.
C'était pas son église.
C'était pas son église, il avait le cancer des intestins. Et donc, il est allé. Au moment où il rentre par la porte, le Seigneur me donne une parole disant, il y a quelqu'un qui a de fortes hémorragies intestinales, des problèmes terribles. C'était lui. Et le Seigneur l'a touché là, sur place, en arrivant.
Amen.
Et cet homme-là, pour vous dire ce que le Seigneur peut faire, donc j'abrège maintenant, ce que le Seigneur peut faire, c'est que cet homme-là, une fois converti, engagé avec le Seigneur, il témoigne, il travaille pour le Seigneur maintenant. Il s'est marié avec la secrétaire du gouverneur du Canada. Un ex-bandit. Ça vous dit comment le Seigneur peut transformer les choses? que le Seigneur veut faire. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, pour nous. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, cet homme, il devait aller au moins 15 ou 18 fois par jour aux toilettes. Il en était là. Il se vidait. Hein. C'était... Ah, c'était lui aussi. C'était sa mort assurée. Il s'en allait. Il se disait, comment je vais finir? Et là, le Seigneur l'a touché. Fini. Terminé. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous te rendons gloire. C'est de toi que viennent toutes ces belles choses. Oh Seigneur, comment te dire? Merci pour toutes ces personnes que tu as relevées d'un lit de mort ou de la mort certaine. Sois loué, sois béni, sois adoré. C'est vrai que tu suscites de telles choses pour faire grandir notre foi, pour nous faire t'aimer un peu plus, t'adorer un peu plus, parce que c'est seul à toi que revient toute la gloire pour ces choses. Qui sommes-nous, des êtres humains limités? Mais toi, tu es un Dieu illimité. Oh, il n'y a pas de limite pour toi. Et nous voulons rester dans ta présence et t'écouter nous parler maintenant. Et te dire combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es grand et combien tu es miséricordieux. À toi la gloire et la puissance qui te revient au siècle des siècles.
Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux dans toutes tes voies. Combien tu nous étonnes, combien tu nous surprends. Surprends-nous encore aujourd'hui.
Amen.
Étonne-nous encore par tes voies, tes actions, tes paroles. Tu es tellement au-dessus de nos pensées.
C'est vrai.
Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Tes voix sont au-dessus de nos voix. Aide-nous à les comprendre. Aide-nous à les saisir. Aide-nous à marcher dans tes voix et non dans nos voix. Merci pour tout ce que tu as fait. À toi seul soit toute la gloire.
Amen.
À nous la confusion de face.
Amen.
Et à toi seul, la gloire. Bénis encore ta sainte parole. Tu veux encore nous enseigner comme tu enseignais tes disciples autrefois. Ouvre notre esprit. Ouvre mon esprit. Afin que nous puissions entendre et comprendre tes voix. Merveilleux Sauveur, à toi soit la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Amen.
Amen.
Nous sommes toujours confus quand Dieu agit. Dieu est tellement au-dessus de nous.
Amen.
Nous ne pouvons pas l'enfermer dans un cadre. Il est le souverain. Sachons lui faire confiance.
Amen, amen.
Il a son plan. C'est son plan qui doit se réaliser et non le tien ou le mien. Car sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Notre volonté propre n'est que du poison. Si Dieu avait exaucé toutes nos prières, aucun d'entre nous ne serait ici ce matin.
C'est vrai.
Heureusement qu'il n'a pas exaucé toutes nos prières. Qu'il loue l'Éternel pour ses bontés et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Combien il est bon, faisons-lui confiance. C'est tout ce qu'il nous demande. Et les quelques paroles que je voudrais vous dire ce matin, c'est un peu une question que le Seigneur a faite, par exemple, à Pierre, Simon Pierre. Qu'est-ce qu'il lui a dit après? M'aimes-tu? Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Et qu'est-ce qu'il lui a dit après? Paie mes agneaux. Il a commencé par les agneaux. Ensuite, à trois reprises, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Mes agneaux, mes brebis, et deux, encore deux fois, mes brebis. Autrement dit, le Seigneur voulait apprendre une leçon capitale à Pierre, que nous devons tous apprendre, que nous soyons dans le ministère ou simplement chrétiens. Nous avons une leçon importante. Si nous voulons travailler pour le Seigneur, si nous voulons faire une œuvre pour le Seigneur, la condition suprême, c'est notre amour pour lui.
Amen.
Amen. Car de votre amour pour le Seigneur va dépendre toutes vos relations d'amour avec votre conjoint, avec votre frère, avec votre sœur, avec vos amis, même avec vos ennemis. Elle est fondamentale, cette relation d'amour avec le Seigneur. Autrement dit, mon message, c'est comme une question que le Seigneur nous pose. M'aimes-tu ? Aimez-vous le Seigneur ? Aimons-nous le Seigneur ? Une question importante. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Et le Seigneur lit au fond de nos cœurs, n'est-ce pas ? C'est ce qui est merveilleux. Mais qu'y a-t-il dans cette parole si profonde ? Bien souvent et facilement, nous disons, mais bien sûr, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Et nous ne saisissons pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que nous allons voir brièvement maintenant. Dans Éphésiens, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4, c'est la première lettre adressée à quelle église ? À l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse était une église merveilleuse. Il se passait de grandes choses à Éphèse. Écrit, chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne m'as point, et que tu ne t'es point. Après tout ça, on pourrait dire maintenant, il faut s'arrêter. Il y en a déjà assez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, je reviens à cette leçon capitale que Jésus a donnée à Pierre. Que notre amour pour lui est fondamental. Si notre amour pour lui n'est pas au-dessus de tout ce que nous faisons, petit à petit, les choses vont aller de travers dans notre vie spirituelle. D'ailleurs, beaucoup de problèmes dans notre vie proviennent simplement de cette lacune dans notre relation d'amour avec le Seigneur. Si on l'aimait vraiment comme lui veut, beaucoup de problèmes disparaîtraient. Beaucoup. Et là, à Éphèse, c'était cela. Il y a eu une flamme un temps, pendant des années. Et petit à petit, cette flamme a baissé. Et le Seigneur n'a pas été content de cela. Il lui a dit, il faut que tu souviens-toi d'où tu es tombé. Ranime, répète les œuvres d'autrefois, quand tu étais bouillant pour lui. Rappelle-toi tout cela. Ceci pour vous dire que cette question que Jésus a posée à Pierre est très importante. M'aimes-tu ? Alors j'ai noté ici, comment savoir que nous l'aimons ? Comment prouver au Seigneur que nous l'aimons ? Parce que beaucoup peuvent dire, mais voyons, c'est une drôle de question que vous me posez ce matin. Mais c'est évident ! Sinon je ne serais pas là. Encore une fois, nous pouvons répondre très rapidement. Comme Pierre d'ailleurs répondait toujours un peu rapidement. Il était le premier à dire les plus belles choses, mais il était le premier aussi à dire des bêtises. Quand le Seigneur a dit qu'il devait prendre le chemin de Jérusalem pour être rejeté, Pierre lui a dit, mais c'est pas possible, non, c'est pas possible. Où tu vas ? Mais alors, il s'est opposé à lui. Et à un moment donné, quand Jésus a dit à ses disciples qui étaient près de lui, et vous, qui dites-vous que je suis ? Les uns disent que Jean-Baptiste ou Jérémie ou je ne sais qui, l'un des prophètes. Et Pierre a eu cette parole sublime, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. N'est-ce pas merveilleux?
Amen, amen.
Et sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Sur la déclaration que Jésus est le Fils de Dieu. Non pas sur Pierre, mais sur la déclaration que Pierre a faite, que Jésus est le Fils de Dieu. Et la vraie église est bâtie sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Amen, amen.
Une église qui n'est pas bâtie sur la divinité de Jésus n'est pas la véritable église de Jésus-Christ.
Amen. C'est vrai.
C'est une imitation, mais ce n'est pas l'authentique. Comment savoir? Comment l'aimer? Voyons une première vérité. Vous l'aimerez parce qu'il vous a aimé le premier. Ça commence par là. Alors, 1 Jean 4, 19, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Quelle belle parole. Et Romains 5, 8, qu'est-ce qu'il est dit? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Voyez-vous, ici, il y a la révélation extraordinaire de l'amour de Dieu. Elle est extraordinaire, pourquoi? Parce que cet amour a aimé des pécheurs, des rebelles, des ennemis. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous aime.
Amen, amen, amen.
Et un jour, dans un commentaire, j'ai lu sur Jean 3, 16, quand il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Connaissons tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le commentateur revenait sur la pensée, Dieu a tant aimé le monde. Et il disait, dans le texte grec, l'accent n'est pas placé sur Dieu a tant aimé le monde, comme pour dire, voyez-vous, comme Dieu aime le monde. C'est ainsi que je l'avais compris moi-même pendant longtemps. Ce n'est pas une erreur, naturellement. Dieu aime tout le monde. Mais dans le texte grec, là, c'est différent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'accent est mis sur le Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Comment? En donnant son Fils. La preuve de son grand amour, c'est le don de son Fils pour chacun d'entre nous. Amen.
Amen.
Voilà comment il nous a aimés. En donnant son Fils pour nous, pécheurs, rebelles, souillés. Rappelons-nous qui nous étions avant de venir au Seigneur, n'est-ce pas vrai? Chacun d'entre nous, nous étions bien loin du Seigneur. Nous l'avons déshonoré de tant de manières. Et lorsque nous comprenons combien il nous a aimés alors que nous étions haïssables, il n'y a rien de tel pour toucher notre cœur. C'est un amour qui nous dépasse. Dieu prouve, et là, il y a le verbe prouver, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, autrement dit des rebelles, nous étions ennemis de Dieu, loin de Dieu, alors que nous étions loin de lui, qu'il n'y avait rien d'aimable en nous, il nous a aimés au point de donner sa vie. N'est-ce pas quelque chose qui devrait nous toucher au plus profond de notre cœur? Un jour, j'avais lu ce simple témoignage d'une prostituée à qui on a annoncé la bonne nouvelle en lui disant que Jésus est mort pour toi, qu'il t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Toi, dans cet état-là, la lumière s'est faite en elle. Elle a dit, si Jésus est mort pour quelqu'un comme moi, à partir de maintenant, je ne suis plus la même personne. Je veux vivre pour lui.
Amen.
Elle avait saisi quelque chose.
Amen.
Que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si nous voulons aimer le Seigneur, il nous faut d'abord être convaincus. Croire tout simplement que Dieu nous aime. Et qu'il nous a aimés alors qu'il n'y avait rien d'aimable en nous. Et c'est ce qui est difficile à comprendre. Car la nature humaine est telle qu'elle veut toujours se vanter de quelque chose. Elle veut toujours mériter quelque chose, n'est-ce pas vrai? On veut mériter l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. On veut mériter cela. Recevoir ça comme un cadeau qu'on ne mérite pas, c'est humiliant. Ça nous brise. Et c'est ce que Dieu veut faire. Parce que nous ne méritons rien que le jugement de Dieu. Mais dans son amour, il est allé donner sa vie pour toi, rebelle, pécheur. Une telle nouvelle devrait briser nos cœurs. Qui pourra t'aimer comme lui a aimé? Personne dans ce monde ne t'a aimé comme il t'a aimé. Comment aimer le Seigneur? En réalisant, en acceptant tout simplement l'amour de Dieu. Romains 8, 37, qu'est-ce qu'il est dit? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et toutes ces choses, c'est quoi dans le contexte? C'est la tribulation, le rejet, l'abandon, tous ces combats. Dans tout cela, on pourrait croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est pas avec nous. Mais l'apôtre dit, mais dans toutes ces choses, nous avons une autre version bien souvent. Nous disons, à part tous les problèmes, à part tous mes combats, je suis plus que vainqueur. Mais l'apôtre ne dit pas ça, il dit, mais dans toutes ces choses, au sein de tous ces combats, je suis plus que vainqueur parce que je crois que Dieu m'aime.
Amen.
Tout est de l'amour de Dieu et la vie de victoire n'est plus possible pour vous.
C'est vrai.
C'est impossible.
Amen.
Mais croyez que Dieu vous aime.
Amen.
Envers et contre tout, par grâce, vous deviendrez une personne qui ressusciterait spirituellement des morts et qui vivrait pour le Seigneur avec un témoignage percutant que personne ne pourra arrêter.
Amen.
Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Et cet amour, je ne le mérite pas. C'est un don. Cela m'humilie, mais je le crois, je l'accepte. N'est-ce pas merveilleux? Et quand on a compris cela, on est prêt après à donner sa vie à celui qui s'est donné pour nous. Comment ne pas vous donner entièrement à celui qui s'est donné entièrement pour nous? À celui qui s'est donné entièrement, comment pouvons-nous donner si peu? Il y a quelque chose qui ne va plus, n'est-ce pas? Mais à celui qui s'est donné entièrement, qui nous a aimés totalement, les demi-mesures ne sont pas acceptées avec Dieu. Mm-hmm. Ou le Seigneur est le Seigneur du tout ou de rien du tout. Si tu aimes ta femme seulement à 99,99%, tu viendras me dire ce qui se passe. Tu sais, chérie, je t'aime beaucoup, énormément, à 99,99%. Qu'est-ce que tu me racontes là? Vous pensez faire une révélation extraordinaire, mais c'est ce petit centième qui est là. Et ce petit centième, il est pour qui? Hein? Le petit malin, là, il est pour qui? Vous n'êtes pas satisfaite. Mais vous avez raison. Quand on aime, c'est totalement. Ou pas du tout. Et avec le Seigneur, il en est de même, mes amis. S'il t'a aimé totalement, il attend un amour total. Et c'est ce qui s'est passé avec les premiers disciples, avec les premiers apôtres. C'est pourquoi certains sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie. Et plus rien ne pouvait les arrêter. Plus rien. Nous, un petit bobo nous arrête. Il pleut, on ne peut plus venir à la réunion. On a un petit mal de tête, c'est fini. La moindre chose nous arrête. La moindre chose. Nous en faisons des problèmes. Pourquoi? Parce que notre amour pour le Seigneur n'est pas entier. Alors, quand tu vois que ton amour baisse pour le Seigneur, la première des choses que tu dois faire, Seigneur, j'accepte ton amour pour moi. Tu dois te replacer dans ce bain de son amour pour toi. Et le croire tout simplement. Amen.
Amen.
Le croire comme un don de Dieu. Et quand nous croyons cela, alors les choses changent vraiment. Comment prouver votre amour? Un deuxième point, vous vous réjouirez d'entendre sa parole et de lui obéir. C'est comme cela que vous allez prouver que vous l'aimez. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et même au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous ici, nous prouverons son amour. Notre amour pour le Seigneur en nous réjouissant d'entendre sa parole et de lui
obéir.
C'est ainsi que tu vas prouver que tu l'aimes. Jésus a dit, si tu m'aimes, garde. Et le verbe garder dans le texte grec, c'est garder précieusement comme un grand trésor. Un grand trésor. Quand on a un trésor à la maison, on le garde précieusement. C'est quelque chose qui est au-delà de toute valeur. Si vous aimez vraiment le Seigneur, vous vous réjouirez d'entendre sa parole et de lui
obéir.
C'est comme cela que tu prouves que tu l'aimes. Mais combien disent Seigneur, Seigneur, et ne font pas ce que Jésus dit. À un tel point qu'à un moment donné, les gens qui étaient autour de lui disaient partout, Seigneur par-ci, Seigneur par-là, tu fais des miracles, tu es merveilleux, mais c'est extraordinaire tout ce que tu fais, Seigneur. Oh là là, mais nul ne parle comme toi, nul n'est comme toi. À un moment donné, il a dit, stop maintenant. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Le véritable test de votre amour pour le Seigneur, c'est votre obéissance à sa parole. C'est vous réjouir de sa parole et dire « Oui, Seigneur ». Vous savez, la vie chrétienne est toute simple finalement. Se résume en deux mots. « Oui, Seigneur ». Oui, Seigneur. Si vous avez cette devise-là, vous irez loin. Quand Dieu vous parle, « Oui, Seigneur ». Ça vous déplaît ? Oui, Seigneur. Ça ne vous arrange pas ? Oui, Seigneur. Seigneur, comme tu veux. Il est le maître. Et vous êtes des serviteurs. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus maîtres. Et c'est le Seigneur qui est devenu leur serviteur. Vous ne savez pas qu'il y a des chrétiens qui donnent des ordres au Seigneur ? Vous croyez que ça n'existe pas ? Seigneur, je t'ordonne de faire ceci et cela. Ils prennent leur autorité. Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est le Seigneur qui doit obéir. Et eux, ce sont les maîtres. Et ils s'étonnent de ce que les choses ne vont pas comme il faudrait. Prenons notre place, la vraie place devant le Seigneur. Il est le maître.
Amen.
Et nous sommes ses serviteurs.
Amen, amen.
Il a un plan. Faisons-lui confiance. La preuve que vous l'aimez, vous vous réjouissez d'entendre sa parole est de lui. Troisième preuve maintenant. Vous aimez la communion avec le Seigneur. 1 Corinthiens 1:9, il nous est dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. Et 1 Jean 1:10, il nous est beaucoup parlé de communion. Là, 1 Jean 1:10, dans la première épître, dès les versets premiers, ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et la vie était manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en... Qu'est-ce que vous avez ? En communion, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Écoutez bien maintenant. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous ne marchions point et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous aimons la communion avec le Seigneur. Et quelqu'un qui est en communion avec le Seigneur, il ne peut pas communier avec les ténèbres. Cela n'est pas possible. Il ne peut pas garder le péché dans sa vie. Ça, c'est impossible. Mais aujourd'hui, certains prétendent qu'ils ont communion avec Dieu tout en étant en communion avec les ténèbres. Et ça, c'est quelque chose d'impossible devant Dieu. Nous aimons la communion de son Fils. La lumière en nous doit haïr les ténèbres autour de nous. Amen. C'est une communion avec le Seigneur qui nous pousse à couper avec les ténèbres de ce monde. Et il y en a, il y en aura de plus en plus, n'est-ce pas vrai? Un quatrième point, une quatrième preuve, vous prouverez que vous aimez le Seigneur en refusant d'être en communion avec les ennemis du Seigneur. 2 Corinthiens 6, 14 à 16, nous ne pouvons pas être en communion avec le Seigneur si nous sommes en communion avec des idoles. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est tout à fait possible. Il y a même des chrétiens qui se disent, chrétiens, il y a des idoles dans leur maison. Même des idoles chrétiennes.
Entre guillemets.
Entre guillemets. Mais c'est tout à fait possible. On vit à une période où tout est possible. Où le compromis est total. 2 Corinthiens, je vous l'ai dit, 2 Corinthiens 6, 14, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun, voyez-vous, commun, entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ces déclarations sont solennelles. Aujourd'hui, on badine avec ces choses, on est superficiel avec ces choses, mais Dieu ne l'est pas. Si tu veux être en communion avec le Seigneur, tu dois refuser la communion avec les ennemis du Seigneur, qui sont les idoles.
Amen.
Un jour, lorsque nous étions au Zaïre, anciennement Zaïre, le Congo maintenant, un frère avait été guéri, merveilleusement, et arrivé à la maison, il perd sa guérison. Et il était étonné, comment ça se fait? À la réunion, c'était merveilleux, et arrivé à la maison, il perd tout. Il était là en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est tout du cinéma, tout ça, quoi? Est-ce qu'on m'a trompé? Et quand il était en train de réfléchir comme ça, d'un seul coup, il voit sur la cheminée là-bas, ou je ne sais pas, sur une armoire, une petite idole qui était là. Et le Seigneur lui dit, enlève-moi cela tout de suite. Ta maison, ton corps est le temple de Dieu. Il a demandé pardon au Seigneur. Il a détruit cette idole. Et il fut instantanément guéri.
Alléluia.
Et définitivement.
Amen. Amen. Bien sûr.
Comprenons-nous toutes ces choses?
Bien sûr.
Nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous le disons trop facilement et trop superficiellement. Nous pouvons passer là-dessus. Mais Dieu ne passera jamais là-dessus. Jamais. Dieu est saint. Dieu est juste. S'il passait par-dessus, il ne serait plus Dieu. Il n'aurait plus d'autorité. Il ne pourrait plus rien nous dire. Et il ne pourrait pas juger le monde. Une autre preuve. On en est cinquième preuve, c'est ça? Vous aimerez le louer et l'adorer. Hébreux 13, 15. Celui qui aime le Seigneur aime le louer et l'adorer. Hébreux 13, 15. Juste vous lire ce passage qu'on connaît bien. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. La preuve que nous l'aimons, c'est que nous le louons. Pas seulement pendant une convention ou un séminaire, mais ici quand tout va mal, quand on doit porter son opprobre, quand on est rejeté par les autres et qu'on dit « Seigneur, tu es merveilleuse. Seigneur, il n'y a pas de problème entre toi et moi. Je t'aime toujours. » Mais combien de fois nous avons une réaction contraire quand nous devons porter son opprobre. Nous nous disons « Mais Seigneur, où tu es ? Tu es en vacances là ? Et puis moi, regarde dans quel état je suis. Mais tout le monde est contre moi. Fais quelque chose. Mais c'est pas possible. Tu me laisses ainsi. » Et on est loin de le louer. Au contraire, nous murmurons et nous attristons le Saint-Esprit. Quelqu'un qui aime le Seigneur, tu vas le prouver en le louant quand tout va mal, quand tout est contre toi. Et que finalement tu puisses dire, Seigneur, même si tout est contre moi, entre toi et nous, tout va très bien. Je t'aime comme autrefois. Rien ne viendra entre toi et moi. Ni le mort, ni la vie, ni les ténèbres, ni quoi que ce soit, ne me séparera de toi.
Amen.
Je t'aime pour la vie et pour la mort. Nous ne comprenons pas tout. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Et que nous devons louer sa justice, sa probité, son intégrité. Il est le souverain. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours avec nous, mais jamais avec lui. Peux-tu le louer quand tu as l'impression que Dieu est contre toi? Si tu peux le louer, alors tu as fait un grand pas avec le Seigneur. Alors tu iras bien loin avec le Seigneur. Car c'est là que le diable nous attend pour fermer notre bouche.
Exactement.
Mais ouvre ta bouche. Si tu es rejeté, si tu ne comprends pas, le bon berger, lui, sera toujours avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Le bon berger est toujours près de sa brebis. Alléluia. Il veille sur sa brebis qui se confie en lui. Il ne l'abandonne jamais. Jamais, jamais. Reste bien près de lui. Coûte que coûte.
Amen.
Un jour, tu comprendras. Mais maintenant, tu dois marcher par la foi et la confiance en sa parole, en son amour, en sa personne adorable et merveilleuse. Amen. Fais-tu le louer quand tout semble contre toi? Alors, tu prouves vraiment que tu l'aimes. Sixième preuve, vous aimerez vos données à lui entièrement. Quand on l'aime, on se donne entièrement. Amen. On aime faire cela. Puisqu'il s'est donné à nous entièrement, alors on se donne à lui. Romains 12, versets 1 et 2, des passages bien connus, mais qu'il est bon de lire et de relire. 12, les deux premiers versets. Je vous exhorte donc par les frères, par les compassions divines, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et
parfait.
Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Dieu a eu compassion de toi. En retour, donne-toi à lui totalement. Alléluia.
Amen.
Totalement. J'ai noté cette pensée ici. Pour nous montrer son amour, Jésus est mort pour nous. Mais nous, pour lui montrer notre amour, nous devons vivre pour lui.
Amen, amen.
Je répète. Pour nous montrer son amour, Jésus est mort. Et nous, pour lui montrer notre amour, nous devons vivre pour lui. Amen.
Amen.
Ce sont des choses toutes simples, mais des choses profondes. Les choses de la parole sont toutes simples. Il faut tout simplement les mettre en pratique. Et je termine. Là, vous prouverez que vous l'aimez en aimant son retour.
Amen.
Prochain. Parce qu'il revient bientôt.
Amen. Amen.
Apocalypse 22, 20. Il nous est dit à plusieurs reprises. 22, 20 vers la fin. Au verset déjà 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Voyez-vous, l'Esprit et l'épouse, c'est nous qui sommes l'épouse du Seigneur, disent, viens. La preuve que nous l'aimons, c'est que nous soupirons après sa venue. Nous voulons être avec lui. La terre a perdu toute valeur, tout éclat. Il n'y a plus rien qui compte dans ce monde. Et vous êtes d'accord avec moi? Le monde va en...
À sa perte.
Le monde s'en durcit, se noircit de plus en plus, se rebelle de plus en plus. Il n'y a plus d'espoir dans ce monde. Malheureusement, le monde va attendre quelqu'un pour régler la solution. Parce qu'ils ne veulent pas du Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas du Christ, ils accepteront l'Antichrist. Mais nous qui avons refusé l'Antichrist, nous attendons le véritable Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus notre Sauveur. Alléluia! Il revient bientôt. À lui soit toute la gloire. Si tu l'aimes, alors tu aimeras son retour. L'Esprit et l'Épouse disent, viens, y a-t-il ce cri en toi? Mais pour beaucoup, non, surtout pas. Mais dans certains milieux, on ne croit même plus au retour du Seigneur. Vous savez, dans certains milieux, on se moque de cela. On dit que la doctrine de l'enlèvement, c'est une doctrine de fuite. Ce sont les chrétiens peureux, fuyards, qui ne veulent pas rester sur cette terre pour faire face, en disant, à leurs responsabilités. C'est une doctrine biblique. C'est l'espérance même de l'Église. Et ceux qui pensent changer le monde ici-bas, sans le Seigneur, ils se trompent. Et ils vont même à leur perte.
Oh, oui, magistralement. Oui.
L'Esprit et l'Épouse disent, viens, viens, Maranatha, le Seigneur vient, que nous puissions ainsi dire, viens Seigneur, on veut être avec toi pour toujours, notre place est là-haut, nous ne sommes comme des pèlerins sur cette terre, que des pèlerins, voyageurs, étrangers, notre demeure est là-haut, c'est là-haut, il nous attend, il nous attend, le cœur rayonnant, marchons vers la gloire, vers l'éternité.
Amen.
Bon courage, chers chrétiens.
Oui.
Aimes-tu le Seigneur? Aimez-vous le Seigneur? Aimons-nous le Seigneur? Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est là le premier et le plus grand des commandements.
Amen.
Que Dieu vous bénisse
et
nous garde dans son amour éternel.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Seigneur, merci pour ton amour qui a touché nos cœurs, qui a touché mon cœur. Tu m'as aimé alors que j'étais souillé dans mon péché. Loin de toi, rebelle, indifférent, je t'ai déshonoré devant les autres. Mais tu m'as aimé, tu m'as pardonné, tu as payé ma dette, tu m'as purifié. Merci Jésus. Et tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Tous ceux qui t'ont reçu dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur. En retour, nous voulons vivre pour toi. Toi qui es mort pour nous. Dès maintenant et à jamais, nous t'attendons désormais. Nous t'attendons, Seigneur. Et nous voulons te servir et encore dire encore autour de nous que tu reviens bientôt.
Amen.
Prépare-toi pour aller à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous. Exhortons les autres à se préparer, car il revient. Il revient bientôt. Nous voici, Seigneur, à toi seul. Sois la gloire et à toi seul nos vies pour l'éternité. Amen.
Amen.
En fonction de ce qui vient d'être dit, le Seigneur voudrait adresser des paroles plus personnelles encore à certains d'entre nous, de ceux qui disent servir le Seigneur. Justement, il en a été question dans le message. Et voici ce que le Seigneur dit à quelqu'un ici, un serviteur. Mon serviteur, c'est dans la mesure où tu te conserveras pur du monde que je me plairai à t'instruire, à t'utiliser et à pouvoir me servir de toi partout où je t'enverrai. Dans la mesure où tu te conserves pur du monde. C'est aussi dans la mesure où tu réalises que sans moi, tu ne peux rien faire. Et que moi-même, que je pourrais œuvrer au travers de toi. Le Seigneur adresse cette parole à un serviteur au milieu de nous, qu'il voudrait utiliser davantage. Seigneur, je te prie pour ce serviteur-là, afin que tu l'éclaires et tu lui montres où nous, il doit changer quelque chose. Parce que quand tu viens, tu nous éclaires. Et ta lumière nous fait sortir de nos ténèbres, des ténèbres dans lesquelles nous nous sommes mis parfois nous-mêmes, par désobéissance, par manque d'amour pour toi, Seigneur. Et un autre, quelqu'un d'autre qui sert le Seigneur aussi au milieu de nous, et auquel le Seigneur dit, c'est encore dans la mesure où tu apprends à te tenir
devant ma
face, dans le calme et la confiance devant moi, que tu deviendras un instrument utile entre mes mains. Tu es trop pris par tes activités. Je voudrais que tu passes plus de temps à m'adorer et à être à mes pieds et à m'écouter. Et ton ministère sera beaucoup plus efficace. Quand tu prends conscience de ta faiblesse, c'est alors seulement que ma force
et ma
puissance peut se manifester dans ta vie. Et c'est alors et alors seulement que mon nom est réellement glorifié, dit le Seigneur. Réalise, mon serviteur, que tu dépends de moi et que tu as besoin de venir te ressourcer. Prends du temps, te dit le Seigneur, prends du temps pour venir devant ma face. Et je pourrai alors, tu pourras être comme ma bouche, dit le Seigneur.
Quelqu'un d'autre encore?
Je veux t'utiliser, ma servante cette fois. Le Seigneur s'adresse à une dame. Je veux t'utiliser pour édifier, pour réconforter, encourager mon peuple. Consacre-toi à moi de tout ton être et sois courageuse lorsque je voudrai aussi t'utiliser pour reprendre, exhorter ceux que je te confie. Une autre parole d'exhortation pour quelqu'un qui sert le Seigneur. Je voudrais, mon serviteur, que l'endurance et la persévérance caractérisent tout ton ministère. Et je voudrais que tu m'aimes davantage que les hommes. Que tu ne craignes point les hommes, crains seulement de me déplaire à moi. Prends courage. Je suis et serai encore avec toi pour te conduire et t'éclairer lorsque le besoin s'en fera ressentir, dit le Seigneur. C'est des paroles tout à fait personnelles que le Seigneur adresse à quelques-uns d'entre nous, parce qu'il est notre berger, parce que si nous voulons l'aimer, il faut aussi l'écouter. Quand il nous reprend, il nous exhorte. Eh bien, c'est une bénédiction. Ça ne nous plaît peut-être pas. Eh bien, il faut peut-être du temps un petit peu pour digérer la question. Mais c'est toujours à notre avantage de la digérer et de l'accepter. Et finalement, de dire, Seigneur, oui, je veux t'obéir. Je veux prendre en compte ce que tu me dis. Et maintenant, alors, un conseil tout à fait pratique qui vient aussi dans le sens de ce qui vient d'être dit dans le message et qui s'adresse à nous tous. Et vous pouvez noter, je vous conseille même de noter, parce que c'est une parole qui vous aidera dans certaines difficultés, certaines situations. Et le Seigneur vous dit simplement, comme titre de cette parole, quand vous vous trouvez dans une situation qui n'a pas de sens et que vous ne comprenez pas, comment réagir? C'est très pratique et c'est très réel. Ça m'aide beaucoup, ça vous aidera aussi. Premièrement, quand vous êtes dans une situation qui n'a pas de sens, ne cherchez pas à tout comprendre et ne vous appuyez pas sur vos propres pensées. Faites confiance au Seigneur. Le Seigneur est quelqu'un qui vous aime. Même si vous ne comprenez pas d'importance. Deuxièmement, refusez toute pensée rebelle dans votre cœur et continuez à remettre toutes choses entre mes mains, dit le Seigneur qui nous aime. Comment pourrait-il nous faire du mal? Comment pourrait-il nous laisser, nous abandonner? La parole dit bien qu'il fait concourir toutes choses ensemble à notre bien, même si nous ne comprenons pas. Et il y aura toujours des choses que nous ne comprendrons pas. Donc refusez toute pensée rebelle dans votre cœur et continuez à remettre toutes choses entre mes mains. Troisièmement, refusez toute amertume à l'égard de ceux qui vous ont fait du mal. Attention, pardonnez toujours, toujours pardonnez. Quatrièmement, restez patient, dit le Seigneur, et attendez en silence mon secours, même quand il faut des années pour que ça change. Et ça, parfois, nous perdons patience, sachant que le Seigneur continue de nous aimer, même quand nous ne comprenons pas, même quand il faut attendre. Restons patients et attendons en silence le secours de Dieu. Ça honorera, le Seigneur et ça lui montrera qu'on lui fait confiance et qu'on l'aide au travers des choses qu'on ne comprend pas. C'est ça, aimer le Seigneur aussi. C'est aussi ça. Cinquièmement, espérer envers et contre toute espérance. Continuer d'espérer quand les choses ne changent pas, même si ça dure 15 ans, même si ça dure 20 ans. Sixièmement, ne doutons pas, ne doutez pas de ce que je vous ai dit, dit le Seigneur, lorsque les choses ne tournent pas comme vous le pensez. Ne doutez pas du Seigneur. C'est le plus grand affront que nous puissions faire à un Seigneur qui nous aime, c'est de douter de lui. C'est comme entre mari et femme, si on commence à douter l'un de l'autre, c'est fini. C'est fini, le mariage va à sa faillite, hein. C'est fini. Si on commence à douter, c'est fini. Avec le Seigneur, c'est fini aussi. Mais le fini est de notre côté. Hein. C'est pas du sien. Lui, il reste fidèle. Mais c'est nous. C'est nous. Montrons au Seigneur que nous l'aimons en toute occasion, partout et en toutes circonstances. Je voudrais qu'on se lève dans la présence du Seigneur maintenant et qu'on se reconsacre au Seigneur. Et que nous répondions à ce message qui vient de nous être donné. Et que nous donnions et que nous lui disions, Seigneur, je t'aime au travers de toutes les circonstances que je vis. Je vais continuer de te faire confiance. Je vais continuer de t'aimer quand je ne comprends pas. Quand les choses vont de travers, ne vont pas comme je pense. Seigneur, je veux quand même te dire, Seigneur, que je t'aime parce que j'ai entière confiance en toi. C'est ça que le Seigneur... C'est ça aussi aimer le Seigneur. Quand nous ne comprenons pas, c'est là le test. C'est là que Dieu teste notre amour. Alors il faut passer le test. Et nous humilier devant lui et dire, Seigneur, je ne comprends pas, je t'aime quand même, Seigneur. Je sais que tu es mon Père, je sais que tu m'aimes. Et que tu ne te trompes jamais dans tes voies. Tu es infaillible dans tes voies. Tu es un Dieu de bonté, de miséricorde, de grâce, de pardon, de vérité. Seigneur, tu es un grand Dieu pour moi et tu es un grand Dieu pour nous, Seigneur. Et nous voulons te le dire ce matin. Tu es véritablement un Dieu de bonté pour moi et pour nous.
Amen.
Dieu de bonté, nous t'honorons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Sois adoré, béni, loué. Louez pour l'éternité. Pour l'éternité. Levons nos bras vers le Seigneur. Oh, nous allons le faire pendant l'éternité. Et nous serons surpris par toutes les grâces qu'il nous a accordées de toute manière. Même quand nous ne comprenons pas. Alléluia, Seigneur. Tu es un Père merveilleux. Nous t'adorons. Nous t'aimons, Jésus. Sois béni pour l'éternité. Amen.
Amen. Il loue l'Éternel pour ses bontés et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
Amen, amen.
Oui, c'est ce que nous voulons faire. Avec ton aide et ton secours,
oh oui, oh oui.
Nos vies sont à toi et pour ta gloire.
Seigneur, oui. Amen.
Amen. Amen.